Bible et de notre réflexion d'aujourd'hui, bien sûr. J'ai intitulé ce partage de cet après-midi, ce message, « Croire en Jésus pour ou contre ?» Nous avons vu dans ce verset, effectivement, deux tendances, la tendance de la chair d'un côté et la tendance de l'esprit. Ce qui est avec Dieu, ce qui est contre Dieu, ce qui est pour Dieu, ce qui est contre. On rencontre parfois des personnes qui sont foncièrement contre Jésus. Pour elles, il n'existe pas, il n'est pas le Fils de Dieu, parce qu'eux-mêmes, ils ont leur Dieu. Parfois au pluriel, ils ont leur croyance, leur divinité, ils ont peut-être des maîtres philosophes, des rites divers, pour s'élever, pour se donner une raison d'exister. Et de s'approcher d'une autre dimension de vie, de sa vie, parfois intérieure, ou souvent intérieure d'ailleurs. Quant à après la mort, là aussi, il y a aussi des approches aussi insensées, farfelues, les unes que les autres. Les objections les plus souvent rencontrées contre Jésus, c'est... Alors ça va de quand je serai vieux, quand j'aurai du travail, quand je serai à la retraite, quand j'aurai connu toutes les choses que peut m'offrir le monde. Mais aussi, si Dieu existait, ça je pense qu'on l'entend très souvent, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas de haine, il n'y aurait pas de famine, il n'y aurait pas de catastrophe naturelle, etc. Et puis pourquoi lui et pas un autre Dieu ? On va décliner, donc contre Jésus et pour Jésus, on va décliner toute une série d'attitudes contre l'acceptation de Jésus. Il y a ceux qui le rejettent, il y a ceux qui rejettent Dieu, que l'on trouve dans Matthieu 26 à partir du verset 65. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant « Il a blasphémé !» après Jésus. « Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. »« Que vous en semble-t-il ? » Ils répondirent « Il mérite la mort. » Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing. Dans Matthieu chapitre 12, verset 30, on a aussi cette parole de Jésus, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi, qui ne crée pas une relation avec moi, se disperse. » Et puis Actes, chapitre 3, verset 19. Alors, il y aura beaucoup de citations cet après-midi. Dans Actes 3, 19, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Il y a ceux, un deuxième petit point, il y a ceux qui nient son existence. Pourtant, Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et puis, malheur à ceux qui ont vu et qui n'ont pas cru. Et puis, il y a aussi ceux qui insultent Dieu. Souvenez-vous, dans Matthieu, chapitre 27, ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils raillaient en disant « Ah, salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient sur lui, ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements, et l'emmenèrent pour le crucifier. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de ta croix. » On retrouve tout ça au moment de la crucifixion, bien sûr. Voilà, il y a ceux qui insultent Dieu. Il y a ceux qui endurcissent leur cœur. Dans Matthieu, chapitre 16, verset 1er, les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et, pour l'éprouver, pour lui tendre un piège aussi, il est dit, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Et là, Jésus leur répond, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui en sera pas donné d'autre que celui de Jonas. » Puis il les quitta et s'en alla. Il y a ceux qui vivent sous l'emprise du diable. Là, Jésus leur dit, « Nul ne peut servir deux maîtres. » Car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, le Dieu de l'argent. Matthieu 6, 24. Un autre petit point, il y a ceux qui vivent par la chair, comme nous venons de le lire. On ne va pas le reciter. Romains 8. Voilà, ceux qui vivent par la chair, ceux qui affectionnent les choses de la chair. Il y a ceux qui blasphèment. C'est pourquoi je vous dis, Jésus, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Qu'est-ce que l'on retrouve encore comme attitude dans ceux qui refusent de croire ? Il y a ceux qui refusent la croix, la crucifixion. Pourquoi ? Parce qu'il est écrit ceci, « Car la prédiction de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Il y a ceux qui préfèrent aussi amasser des trésors sur cette vie, pendant cette vie. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais faites-vous un trésor dans le ciel. Ça, c'était dans Matthieu 6, verset 19. Et puis, pour rejoindre un petit peu ce que l'on disait tout à l'heure, il y a ceux qui veulent encore des miracles. Seigneur, oui, d'accord, mais montre-moi encore un miracle. Allez, fais encore un miracle. Et là, je croirai en toi. Oui, parce que ceux d'avant n'avaient pas de valeur. Et Jésus leur dit non, vous n'aurez pas d'autres miracles. Il y a ceux qui étouffent leur conscience, il y a ceux qui font les sourdes oreilles. Et pourtant, dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, Jésus dit ceci, « Voici, je me tiens à la porte de notre cœur, à la porte de notre entendement, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Et puis enfin, il y a ceux qui sont d'un optimisme allant jusqu'à aller que nous, on est forcément sauvés d'office. Parce que Dieu est tellement bon. Dans Luc chapitre 19, verset 10, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Donc il y a bien une notion de perdition. Il n'y a pas une notion de « Jésus est venu, mais en fait, ce n'est pas la peine qu'il vienne. » Puisque forcément, nous serons sauvés. Enfin, tous seront sauvés. Il y a même un chanteur français, assez célèbre, qui disait de toute façon, on ira tous au paradis. Donc faisons tout ce que nous avons envie de faire. Donc là, je suis désolé, mais on peut offrir une Bible à ces personnes-là et leur dire, par contre, tu vas aller dans Romains et puis tu vas couper ce verset, parce qu'en fait, il n'y a pas lieu d'être. Puisque tu pars du principe que tout le monde sera sauvé. Hébreux chapitre 2, verset 3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ? qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Comment nous échapper du jugement dernier sans nous approcher du sacrifice de Jésus? Et y croire, bien sûr. Et encore dans Apocalypse, chapitre 20, verset 15, « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » On revient sur, on se recentre sur notre thème, pour ou contre. Il n'y a pas pour maintenant, contre après, et surtout contre maintenant, et en disant que de toute façon, inéluctablement, puisqu'on me dit que Dieu est un Dieu d'amour, on sera tous sauvés. Et enfin, dernier petit point, il y a ceux qui se croient plus intelligents. Au-delà de ça, je n'ai pas besoin de Dieu. Et pourtant, là, il est écrit, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont perdus, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et là, on se trouve dans la première partie, dans le clan de ceux qui sont contre. Et puis enfin, il y a ceux qui sont pour. Heureusement qu'il y a ceux qui sont pour. Il y a ceux qui ont obéi à la parole de Dieu. Quand Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Moi, je vous donnerai du repos. « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Matthieu 11, 28. Ceux qui sont pour Jésus, c'est ceux qui ont cru simplement. Ou un jour, j'espère pour aller vous toutes et tous, un jour vous avez cru simplement. Croyez comme un petit enfant. Alors il dit à l'homme, étends ta main. Jésus dit à l'homme, étends ta main. L'homme l'étendit et sa main elle devint saine comme l'autre. Il a cru simplement qu'en étendant sa main, Jésus allait le guérir. Et toutes ces personnes qui se sont approchées pour être guéries, même la femme malade qui s'est approchée derrière Jésus de peur de le voir en face, elle a touché son vêtement parce qu'elle disait « Ah, si seulement je pouvais toucher son vêtement !» Et elle a été guérie. Mais elle a cru simplement. Et Jésus donne aussi un avertissement en disant « Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. » Heureux. Heureux sont ceux qui ont cru simplement. Heureux ceux qui ont obéi simplement. Et enfin, heureux ceux qui ont fait confiance aux promesses de Dieu. Et des promesses de Dieu, il y en a depuis le début de la Bible. Souvenez-vous, Abraham, âgé de 99 ans, le Seigneur, Dieu s'approche de lui et lui dit, « Abraham, j'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. » Je vous laisse retourner dans Genèse 17 et vous verrez. Je relis l'histoire d'Abraham. Et puis dans Deutéronome, chapitre 11, verset 7. « Car vos yeux ont vu toutes les grandes choses que l'Éternel a faites. » C'est vrai, il y a ceux qui ont vu du temps de Jésus, qui ont cru, mais il y en a qui ont vu et qui n'ont pas cru. Aujourd'hui, Jésus n'est plus là, et il y a ceux qui croient, et il y a ceux qui ne croient pas. Et pourtant, le message, il est le même pour tous. Il n'y a pas un message pour ceux qui croient, et il n'y a pas un message pour ceux qui ne croient pas. C'est la même parole de Dieu. Donc, quelle est la conséquence de ces deux attitudes ? Pour ceux qui sont contre, c'est la mort, assurée. Mais avant cette mort, avant cette étape finale, il y a les tourments de chaque jour, la solitude qui pèse, la crainte de la mort qui hante, l'insatisfaction, la recherche effrénée d'un bonheur, d'un bien-être, d'une pseudo-plénitude, une nature aigrie de haine, violence, d'indifférence, ou un sentiment d'invulnérabilité, une sollicitation grandissante des voyants, des médiums, des horoscopes de toutes sortes. On veut savoir ce qui va se passer dans ma vie, on veut éviter certaines choses. Puis la recherche d'une certaine richesse, mais qui n'apporte rien. Dans Luc chapitre 12, verset 15, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme ? Et puis j'aime bien ce récit dans Luc 16, versets 19 à 31. Je ne vais pas le lire en entier. Donc Luc 16, 19, 31, c'est l'histoire d'un homme riche qui faisait la fête tous les jours. Hein. Et puis il y avait Lazare qui était couvert d'ulcères, le pauvre qui était couché dehors parmi les chiens et qui essayait de choper quelques miettes pour manger. Et puis là, le pauvre mourut. Et le riche mourut aussi. Et là, à un moment donné, ben, ce riche qui se retrouve en enfer dit, mais là, il faut que quelqu'un aille prévenir les autres en disant, ben oui, l'enfer existe et il faut croire avant de mourir. Je te prie donc, Père d'Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Et en fait, ça se termine en disant, mais ça ne sert à rien, puisque vous n'avez pas cru, alors que vous aviez la possibilité de croire. Vous n'aurez pas un autre signe. Ils n'auront pas un autre signe. Ils ont eu les prophètes. Et pour ceux qui ont cru, la vie éternelle, la mort physique, mais la vie éternelle. Mais avant cela, il y a le pardon, il y a la transformation, il y a la guérison, il y a l'espérance, il y a la vie éternelle. Il n'est plus question de solitude, de désespoir. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. 1 Pierre 1, 3. Et puis, dans 2 Corinthiens 3, 18, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur Esprit. Puis Jésus dit à ses disciples, voyez, attention, je vais partir. Mais je pars vous préparer une place, afin que là où je vais, vous soyez aussi. Et puis quand Paul aux Romains dit, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Il y a un autre verset sur lequel s'appuyer. C'est 1 Corinthiens 2, 5. « Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu, pas sur notre sagesse. » Il est dit que même l'homme qui pourrait prétendre Être le plus sage, c'est le plus fou aux yeux de Dieu. Dans Apocalypse, non, d'abord dans Jean 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie éternelle, et qu'elles soient dans l'abondance. Pas dans la disette, pas dans la restriction, dans l'abondance. Et nous pouvons aussi nous appuyer sur Hébreux 8, 12, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Alors on l'a utilisé plusieurs fois ces derniers temps. Hein. Quand Jésus pardonne, il efface. On ne voit plus rien. Il n'y a plus de traces. Les frères et sœurs, à ceux qui sont contre, voilà, je vous ai donné un certain nombre de choses à réfléchir. Pour ceux qui sont pour, nous avons cette assurance. Nous savons en qui nous croyons et pourquoi nous croyons. Et à nous chrétiens, à nous qui croyons, j'aimerais voir avec vous, avant de conclure, quelques petits écueils à éviter. Tout d'abord, ne soyons pas entêtés. Si vous n'écoutez pas et si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. L'entêtement. Nous, chrétiens, parfois, nous pouvons être entêtés. Entêtés à vouloir absolument une chose. En disant, Seigneur, c'est ça que je veux. C'est ça que c'est bon pour moi. Parfois aussi, on peut, un autre petit point, on peut être insoumis. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Nous pouvons nous laisser gagner, nous pouvons nous laisser submerger par une certaine désinvolture, on va dire, alors que nous devons continuer à être soumis à la parole de Dieu, soumis à sa présence. Puis un avertissement aussi à ne pas tomber dans la désobéissance, parce que Jésus a dit, attention, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et enfin, un dernier, pour être sûr de notre appartenance, de notre clan, j'aime pas trop très bien ce mot-là, mais notre appartenance, voilà, je préfère. Attention à ne pas servir de maître. Ce n'est pas parce que je suis chrétien, que j'ai donné ma vie au Seigneur, que je ne garde pas une certaine maîtrise de mon moi. Et que je ne laisse pas Dieu prendre complètement les rênes. Et cet avertissement, et attention, on ne peut pas servir deux maîtres. Parce qu'à un moment donné, lequel va-t-on choisir? Voilà, ne vous inquiétez pas, c'est autant pour moi aussi. Hein. Voilà, nous qui sommes pour, qui savons pourquoi, merci Seigneur, ben que nous le restons pleinement, pleinement soumis, pleinement obéissant et pleinement serviteur de notre Seigneur. Un dernier petit verset pour conclure. Nous sommes en effet, pour Dieu, la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 15. Que la parole de notre Seigneur, elle puisse pénétrer au plus profond de notre cœur, de notre être, et que nous puissions pouvoir lever les yeux au ciel en disant « Seigneur, pardonne-moi, je t'appartiens, prends toute la place. » Amen. Que Dieu bénisse sa parole.